This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juin 2010 et c'est l'épisode numéro 36. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas spécialistes de la technologie, et on leur parle de ce qui fait le monde de merveilleux, du net, des gadgets et de la technologie en général. Merci à tous d'être avec nous. On va vous parler un petit peu d'iPhone 4, de Yahoo, de Google, de Foxconn et de plein de choses du genre. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Merci à tous donc de nous rejoindre dans la chatroom. Vous êtes nombreux comme toujours à être là et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Je vois que Kosram dit déjà « Pitié, pas de l'iPhone ». Ne t'inquiète pas.
Ça va être difficile. Hein.
On va, évidemment, l'iPhone 4 vient d'être présenté, donc on doit en parler. Mais on ne va pas faire toute l'émission dessus, loin de là. Je salue bien sûr, comme toujours, mes co-animateurs de l'émission classique, c'est-à-dire Yann et Jeff,
qui
vont bien sûr super bien.
Ben oui, bien sûr, avec une keynote, WWDC qui vient d'être, qui a démarré aujourd'hui, forcément, je suis content puisque à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, moi, je suis jamais dans le rendez-vous tech qui va traiter justement de ce truc-là. Je suis toujours avec un épisode de retard, donc là, je suis content d'être là, en fait.
Magnifique. Et eh ben, espérons que ta connexion, qui visiblement est capricieuse, ne chaotera pas juste à ce moment.
C'est peut-être Steve Jobs qui tient le câble en fonction de ce que je vais dire.
Jeff, tu vas bien aussi ?
Ça va très bien, merci, bonjour à tous. Malheureusement, j'ai loupé la keynote, j'étais super occupé ce matin et donc je n'ai pas eu le temps de m'asseoir devant mon ordinateur pour suivre mes copains de GDGT qui, comme d'habitude, font un excellent boulot à nous dire ce que le père Steve Jobs raconte. Mais je le veux, je le veux, je le veux et je le veux. Je serai dans la queue le 24 juin à l'Apple Store qui est à 2 bloc de mon bureau et je suis très content.
Tu gardes ton enthousiasme pour dans quelques minutes, on va en parler beaucoup plus longuement, mais avant ça je voudrais juste remercier les gens qui ont choisi de nous laisser un petit pourboire. Vous le savez, il y a un lien sur le site de l'émission, sur la droite il y a un petit lien tout vert comme la couleur de l'argent et c'est un endroit où vous pouvez nous laisser un pourboire et cette fois-ci Rodolphe alias LDN Pub sur Twitter, Laurent Alain Tanguy, alias Urban underscore Retro sur Twitter, nous ont laissé un pourboire et je les remercie chaleureusement du fond du cœur et ça nous fait vraiment très plaisir que vous choisissiez de dépenser un petit peu de vos sous pour nous soutenir. Donc voilà pour la partie pourboire et on se lance donc dans la partie news de l'émission, la partie principale, avec, vous le disiez, la keynote de la WWDC. Pour ceux qui ne le savent pas, la WWDC, c'est la Worldwide Developer Conference d'Apple, donc c'est une conférence qui s'adresse avant tout aux développeurs des différentes plateformes d'Apple et ils profitent généralement de cette occasion pour présenter de nouveaux produits et d'ailleurs plus précisément l'iPhone. Donc à chaque année depuis 2007, le nouvel iPhone est présenté à cette occasion et cette année ça n'a pas manqué non plus. Il y avait énormément de spéculations sur ce qui allait être présenté. Et cette fois-ci, ça a été... disons qu'il y avait beaucoup de spéculations. On parlait de beaucoup de choses, des choses comme iTunes Live, une sorte de trackpad un petit peu surprenant et plein de choses du genre. l'Apple TV même peut-être, enfin une nouvelle version en tout cas, mais il n'y a eu rien de tout ça, il n'y a eu que l'iPhone version 4. Alors comme on le disait dans la chatroom, il y en a certains qui nous disent pitié pas l'iPhone. Si ça ne vous embête pas, moi j'aimerais parler très rapidement. Alors deux choses, d'abord je vais présenter cet iPhone dans les grandes lignes et ensuite vous dire ce que j'en pense et ensuite je vous demanderai votre avis aussi, si ça vous convient.
Eh bien oui, faisons ça.
D'accord. Donc, l'iPhone version 4, c'est donc le nouvel appareil, la nouvelle version de l'iPhone d'Apple, qui a ses caractéristiques différentes par rapport à la dernière version, l'iPhone 3GS. Il a un écran dont la résolution est bien plus élevée que les précédents et sa résolution atteint la limite distinguable par l'œil humain, d'après leur machine marketing.
C'est bien Apple, ça.
Mais c'est vrai qu'il y a une limite à partir de laquelle, c'est normal, quand la taille des pixels est trop petite, on ne voit plus vraiment la différence. Visiblement, cet écran qui est un petit peu plus... qui a une résolution un petit peu meilleure que les autres écrans les plus performants du marché, eh ben, atteint cette limite-là. Donc, c'est une manière de juger la qualité de l'écran qui est intéressante. Il a une caméra à l'arrière, donc la caméra classique qui fait 5 mégapixels, donc une petite amélioration de cette caméra. Il a aussi une caméra à l'avant qui va permettre de faire une sorte de visioconférence. Mais la caméra devant a bien sûr une résolution beaucoup plus faible. Il a aussi un flash en LED, donc qui vous permet de prendre des photos dans le noir, évidemment. Il a également deux micros, ce qui permet de faire de la réduction de bruit, donc la qualité des appels devrait s'en trouver améliorée. Il a une durée de vie un petit peu plus longue, enfin la batterie dure un peu plus longtemps a priori, de l'ordre de 10 à 20%, c'est déjà ça. Et enfin, qu'est-ce qu'il a d'autre d'intéressant ? Je crois que c'est à peu près tout au niveau des caractéristiques techniques. Par contre, il a comme on le disait, la visioconférence qui est possible grâce à cette caméra frontale. Et ils ont un logiciel spécialisé pour ça qui s'appelle FaceTime, qui est un logiciel de visioconférence à deux personnes uniquement et uniquement en Wi-Fi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça ne passe pas en 3G. Vous ne pouvez pas utiliser ce logiciel spécialement conçu pour faire de la visioconférence à deux sur l'iPhone. Je crois que c'est à peu près tout. Il y avait d'autres chiffres qui ont été donnés, d'autres informations assez nombreuses, mais c'est un résumé de tout ça. J'aimerais juste dire que je ne vais pas m'étendre non plus énormément sur la chose, parce qu'on a fait une couverture en live de cette keynote avec Mathieu Blanco et d'autres podcasteurs, dont Cédric Bonnet, Jérôme Kainborg, Gonzague... etc., etc. Il y avait plusieurs personnes, Pascal Cordona, etc. Enfin bref, il y avait plein de gens. Donc on était plein sur Ustream et donc on a déjà parlé de ça pendant à peu près 2 heures. Mon Dieu, j'oublie Sandrine Camus, elle va m'étrangler. On a déjà parlé de ça pendant 2 heures, donc bon, on en a un petit peu soupé. Mais le résumé, c'est que, à mon sens... l'iPhone 4 est intéressant, mais c'est très très loin d'être quelque chose d'excitant. Moi, je suis moyennement excité par la bête. Il n'y a pas de grosses fonctionnalités qui vont me faire... Alors, mettons les choses au clair. Je vais évidemment l'acheter. Donc, mais je vais l'acheter sans énorme enthousiasme. Je vais l'acheter parce que avec le processeur A4, il va être plus rapide. Il va y avoir effectivement des photos de meilleure qualité. C'est très important pour moi parce que je prends beaucoup de photos avec mon iPhone. Donc, plus les photos sont de bonne qualité, mieux c'est. Et celles de l'iPhone actuel sont vraiment pas géniales, etc., etc. Il y a des petites améliorations d'incrémentation, enfin bref, des petites améliorations, mais rien de super excitant. L'iPhone OS 4, qui est d'ailleurs renommé en iOS plutôt que iPhone OS, puisqu'il équipe évidemment l'iPad ainsi que l'iPhone, et peut-être demain un Apple TV ou ce genre de choses. Donc l'iOS version 4 m'excite beaucoup plus que l'iPhone version 4 en lui-même. Et l'iOS sera bien sûr disponible sur l'iPhone 3GS. Dernière précision sur cette machine, elle sera disponible le 24 juin en France, aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays, au prix aux États-Unis en tout cas de $200 avec un abonnement pour AT&T. Évidemment, on peut se douter que ça donnera quelque chose comme 179 € pour la version 16 Go en France, a priori. Voilà, donc moi, pas super excité. Et je sens Jeff qui bouillonne derrière parce que lui, il va se précipiter dans son magasin.
Oui, bah, de toute façon, comme toi. Mais je pense que, objectivement, quelques fonctionnalités que moi, j'ai retenues. Un, c'est la batterie longue durée, ce qui est énorme, parce qu'un des gros problèmes que l'on a avec tous ces téléphones super avancés, super sexy, c'est que la batterie dure pas suffisamment longtemps.
Je t'arrête tout de suite, la batterie longue durée, il l'annonce pour 1 à 2 heures de plus que la batterie du 3GS. Et vu que la batterie du 3GS est vraiment pas géniale, je suis pas certain qu'une ou deux heures changent énormément.
Ah bah si, pour moi la grosse différence, c'est que mon téléphone aujourd'hui, il crève entre 5h30 et 6h30, ça veut dire que je fais toute la journée.
D'accord.
Donc pour moi c'est une chose. Et comme ils vont rajouter le multitâche dans l'OS, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui quand on regarde le Nexus One, le Motorola Droid et le Evo 4G, le tout dernier sorti là chez Sprint, ces bécanes là vont crever entre 2h et 3h30 de l'après-midi. Je les ai tous les trois et je peux pas faire une journée entière sans les recharger. Pourquoi ? Parce que l'OS multitâche bouffe la batterie de façon monstrueuse. Donc, la batterie. Je pense que le design qu'a utilisé Apple, le casing, le pourtour du téléphone est en fait conductif et va être utilisé en tant qu'antenne, va améliorer la réception. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt technique, mais à mon avis, ça peut être intéressant.
Et moi, j'avais pas vraiment de problème de réception.
J'ai retenu une meilleure caméra, ce qui est aussi important pour moi. J'aurais aimé voir une caméra 8 mégapixels. C'est la seule chose que j'aime beaucoup sur le Evo, c'est la qualité de la caméra qui est énorme. Et le fait que Apple reste à une caméra de 5 mégapixels, c'est un petit peu décevant, je trouve.
Ouais. Mais enfin, moi, j'entends rien qui me fasse... Bon, la batterie, oui, c'est bien, je dis pas le contraire. Et effectivement, je vais le prendre, mais je suis pas vraiment excité par cet appareil, quoi. Moi, il me paraît pas... Enfin, la batterie, c'est bien, 5 mégas, c'est mieux que 3, comme le dit Viviane Roldo dans la chatroom. Oui, mais enfin, t'es vraiment excité, toi, Jeff, par tout ça ?
Ah oui, je pense que c'est le meilleur plateforme. Je pense que c'est la... C'est... Ça commence à être... Pour moi, en fait, c'est la réponse... Bon, pas la réponse, mais c'est en gros Apple qui met l'iPhone au même niveau que l'iPad en termes de plateforme.
Ouais, d'accord.
Enfin, en même temps, Apple, ouais, il sortira un stylo bi. Tu étais sûr que Jeff il serait en train de faire la queue la veille, quoi. Donc, moi, c'est pas.
C'est même pas vrai. C'est même pas vrai.
Mais c'est vrai que pour une fois, je partage l'avis de Patrick. Là-dessus, c'est bon. Oui,
on est d'accord, Yann. On est d'accord.
T'as vu, c'est incroyable. Hein. Mais ouais. Alors, ok, très bien. Il est très beau. Il y a des améliorations, c'est certain. Moi, en tant que possesseur de 3GS, je vais pas vu tout ce qui suit qu'on prend un nouvel abonnement téléphonique, on paye beaucoup plus. L'investissement n'est pas justifié par rapport à ce qu'apporte cet iPhone 4 par rapport au 3GS. Donc, moi, je serais pas un acquéreur. Peut-être pour l'itération suivante. Et moi, je suis assez surpris, en fait, par rapport au leak qu'il y a eu avant, les fuites sur Gizmodo, sur le prochain iPhone qui va sortir. Ben, 80% de ce qui a été dit pendant cette conférence, on le savait déjà, en fait. Et moi, j'attendais un petit peu Apple dans le sens où ils allaient nous proposer quelque chose d'autre. Toute cette conférence, en fait, ça a été que de l'iPhone. Et je suis un peu déçu. On avait vu ce matin une rumeur sur le Magic Touchpad. Finalement, il n'y en a pas eu. On attendait Apple sur différents aspects. On a passé les deux derniers mois à parler de HTML5 contre Flash. C'est la WWDC, donc un truc qui est réservé aux développeurs. Je pensais qu'Apple aurait fait des démonstrations comment l'HTML5 est plus intéressant. Enfin, il y avait plein de sujets sur lesquels on les attendait. Et puis finalement, ils nous ont sorti l'iPhone qu'on a vu des centaines de fois sur plusieurs sites et avec pas grand-chose d'excitant, quoi. Donc, reste un petit peu sur
la technologie de display qui rend l'affichage extrêmement plus fin que ce que tu as aujourd'hui. Je suis désolé, on ne savait pas parce que par définition.
Mais bien sûr qu'on savait. Mais oui, on savait. Mais ils l'ont passé sur un microscope, ils ont calculé, ils ont vu que les.
On connaissait précisément la résolution de l'écran. Ah. Elle était pile le double de la résolution des iPhones actuels. On le savait parfaitement.
Quatre fois.
Ouais. Le double de chaque côté, oui, c'est quatre fois.
Voilà.
Oui.
Effectivement. Et donc voilà. Enfin, c'est un très bel appareil. Moi, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il est pas super beau, qui préfèrent le 3GS. Moi, le premier leak. Enfin, j'ai trouvé la fun très très jolie. Je le trouve bien plus beau. En plus, il est plus fin. J'ai vu les premières remarques d'Engadget qui ont pu vraiment le tester en ce moment là et qui disent que c'est vraiment concentré de technologie. Qu'ils ont du mal à comprendre comment autant de fluidité et de puissance peut se trouver dans quelque chose d'aussi fin. Donc c'est un très bel appareil.
C'est sûr. Mais moi je dis pas le contraire, hein, qu'on me comprenne bien. Dans la chatroom, certains disaient on a l'impression que Patrick, on le force à acheter l'iPhone. Non, je veux dire, je suis sûr que je vais l'acheter, je vais en être content. Il va être plus rapide, un petit peu plus d'autonomie, meilleure photo. Je veux dire, je le prends parce que l'iPhone est l'appareil que j'utilise le plus dans ma vie. Donc, si même une amélioration légère, ça va quand même m'intéresser. Mais sans repartir dans un grand débat, l'iPad était une machine qui, au final, m'a semblé beaucoup plus... Et je ne veux pas repartir dans le débat de est-ce que l'iPad, ça sert à quelque chose ou pas. Moi, ça m'a séduit. Si vous, ça ne vous intéresse pas, très bien, tant mieux pour vous, je veux dire, à la limite. Il y a énormément... Moi, je commence à en avoir marre des gens qui, parce que eux, l'iPad ne l'intéresse pas, il faudrait que moi, il ne m'intéresse pas non plus. Donc ça... Je le dis clairement, je ne vous oblige pas à aimer cette machine. Moi, je l'aime bien. Maintenant, l'iPad m'a intéressé, m'a apporté quelque chose, une certaine excitation, une nouvelle façon d'utiliser l'informatique. L'iPhone 4, à mon sens, n'est qu'une simple évolution qui va me servir, donc que je vais prendre avec plaisir, mais c'est pas quelque chose de vraiment, tu vois, excitant, dont on peut dire, voilà, Apple a fait avancer l'informatique, Apple a fait ça ou ça qui soit vraiment intéressant. Bon, c'est quelque chose d'attendu, de sympa, mais sans plus, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc, non, Jeff, voilà. Je t'ai pas convaincu.
Non, moi je boude. Je suis dans mon coin, je suis en train de regarder, je suis en train de me pâmer devant les photos de l'iPhone 4 sur le site d'Apple. Et je converse avec mes copains américains, on dit, oh, c'est bon, à quelle heure on y va le 24?
D'accord, bon.
Non, mais je pense que, objectivement, peut-être que du point de vue utilisateur, tu considères qu'il n'y a pas énormément d'avancées. Je pense que c'est une plateforme technique intéressante. Le fait qu'il y ait un gyroscope, je peux te dire que Megus chez Tapulus, ils sont en train de se lécher les babines.
Oui, le gyroscope qui va permettre de... Bah, vas-y, pardon.
Ça va nous permettre en fait d'introduire encore des mécaniques supplémentaires dans le jeu. Je pense que
le gyroscope permet d'avoir des détections de mouvement beaucoup beaucoup plus précis, un petit peu comme une Wiimote ou ce genre de d'appareil. Voilà.
Exactement. Et le fait qu'on ait un processeur A4, donc le nouveau processeur d'Apple qui est aujourd'hui dans l'iPad qu'on n'avait pas dans l'iPhone, plus la batterie, je pense que ça a quand même un effet non négligeable sur la durée de vie du téléphone, ce qui pour moi est énorme, puisque je ne peux pas me permettre des fois de recharger le téléphone dans la journée. Et je suis super enthousiaste. Je veux l'avoir maintenant.
Dernière petite chose, pendant le live qu'on a fait donc avec Mathieu Blanco et Cédric Bonnet, etc., il donnait des suggestions d'utilisation avec le gyroscope et la caméra de face sur d'autres appareils qui avaient déjà ce type de possibilités qu'il utilisait de manière intéressante. Par exemple, Thibaut dans la chatroom demande quelle est la différence entre l'accéléromètre et le gyroscope. L'accéléromètre repère effectivement le mouvement, mais le gyroscope permet d'autres choses, comme par exemple le fait de savoir si l'iPhone est posé de face ou de dos. Et on peut imaginer par exemple le téléphone sonne, on le retourne, on le met face contre la table et il passe en mode silencieux ou on passe la main devant parce qu'il y a une caméra sur la face et ça arrête la sonnerie. Ce genre de choses qui existent depuis très longtemps sur d'autres appareils ou qui pourraient exister sur d'autres appareils mais qui seront aujourd'hui également disponibles sur l'iPhone. Bon, encore une fois, c'est sympa et puis voilà quoi. Bon. Écoutez, on va s'arrêter là pour l'iPhone. On verra, peut-être que je changerai d'avis quand je l'aurai entre les mains, mais sincèrement, j'en doute. Bon, conférence D8.
On te rappellera ces mots, on te les fera manger. Je te pâmera d'avoir cette...
Non mais tu vois, là je crois qu'on voit véritablement... Bon, j'ai dit que j'arrêtais, mais je vais quand même en reparler encore deux secondes. Je crois qu'on voit véritablement la différence entre les gens qui ont une analyse objective et saine du marché de l'informatique et les gens qui sont quand même un petit peu fanboy. Parce qu'on avait des gens dans le live qui étaient complètement émerveillés par cette machine, qui disaient « Ah oui, mais il est tellement beau, il est tellement magnifique, il est tellement... » Et tu leur demandes pourquoi c'est intéressant et ils te disent « Mais il est beau, il a une batterie qui dure plus longtemps. » Ok, oui, mais enfin, pourquoi est-ce que ça suscite un tel enthousiasme? Pour moi, il y a une disproportion entre l'enthousiasme provoqué et le changement véritable et constaté qu'apporte cet appareil.
C'est marrant que tu dis ça parce que l'autre jour je suis allé à Best Buy le jour où justement l'iPad sortait et je suis arrivé 5 minutes avant que ça ouvre. Je savais pas que ça, c'était ce jour-là qu'il était disponible et je vois un gars qui me regarde et qui me dit je le connais pas, il me fait t'es là pour l'iPad toi aussi hein. Je dis non en fait c'est avec un sourire en coin, je fais non en fait je suis venu acheter un routeur. Il me fait « Ah, d'accord. Mais pourquoi tu prends pas l'iPad ?» Je dis « Non, parce que voilà quoi. » Enfin, pour les raisons que j'ai déjà citées. Il me fait « Ouais, le flash, ouais, c'est vrai que le flash, ça manque et tout. » Mais je lui dis « Mais pourquoi toi, tu vas le prendre ?» Il me fait « Ouais, mais c'est vrai, il y a pas le flash. Je saurais pas te dire pourquoi je le prends, mais voilà quoi, c'est Apple. » Et puis voilà quoi, un produit Apple, il sort, faut l'acheter quoi. C'est juste comme
sauf
ça.
Sauf
de me
que
dire
moi...
pourquoi, en fait.
Sauf que moi, j'ai mon iPad depuis une semaine et j'en suis très très content et je ne regrette pas mon achat du tout.
Non, mais c'est juste...
Pour ceux qui veulent savoir pourquoi et comment écouter Upload, vous comprendrez notre autre émission avec Jérôme Kainborg, on s'est étalé là-dessus. une petite réponse à Kisban dans la chatroom qui dit aussi, il y a des gens qui n'ont pas de 3GS, donc la dernière version de l'iPhone, tu comprends, il a l'air un petit peu énervé Kisban, oui je comprends, il y a aussi des gens qui n'ont pas de téléphone du tout, oui si on commence à voir les gens qui n'ont pas la dernière version, c'est sûr que ça va être intéressant, c'est évident, mais moi je juge par rapport à l'évolution, par rapport à ce qui existe déjà, je vais pas juger l'iPhone 4 par rapport à celui qui a inventé la roue il y a 40 000 ans, bon les choses ont évolué depuis le 3G. Bon, voilà. Bise à Kisban quand même. Bon, allez, on passe à autre chose. Oui, pardon.
Mais si on regarde quand même, si on fait un comparatif objectif entre les quelques téléphones qui sont sortis de chez Android très récemment, donc particulièrement le Livio 4G qui vient de sortir la semaine dernière. Et l'iPhone 4, je pense que l'iPhone 4, il n'y a pas photo quoi, entre les deux. Et TechCrunch a déjà fait la première comparaison. Le gros plus de Livio, c'est son écran qui est magnifique, sa caméra qui est de super bonne qualité. Mais derrière, si tu... En gros, c'était mon commentaire au mec de Google qui me l'a envoyé il y a une quinzaine de jours. J'aurais dit, c'est une super caméra, je l'adore. Mais comme téléphone, il est pourri. Et c'est un peu ça, quoi. Je pense que Apple réussit à faire un amalgame de fonctionnalités, que ce soit au niveau utilisateur, que ce soit au niveau operating system, que ce soit au niveau plateforme, qui fait que c'est difficile pour eux de, enfin c'est difficile pour les autres de sortir un produit ne serait-ce qu'un petit peu compétitif quoi. Et le fait qu'ils aient passé les 100 millions de devices, je veux dire ça parle tout seul quoi.
Écoute, je te laisse le dernier mot et je ne réponds pas à la chose. Je suis en gros assez d'accord, donc de toute façon, ça ne me coûte pas tellement de me taire. on passe à la conférence D8, qui est une conférence assez intéressante, qui est organisée par le Wall Street Journal, qui invite plusieurs personnalités du monde de la technologie. En fait, c'est la conférence All Things Digital, All Things D, qui en est à sa 8e édition, c'est pour ça qu'elle s'appelle la D8. Et ils ont invité notamment Steve Jobs, Mark Zuckerberg et Steve Ballmer. Donc Steve Jobs, évidemment, président d'Apple, Zuckerberg, président de Facebook, et Steve Ballmer, président de Microsoft. On se souvient d'ailleurs qu'il y a 3 ans, ils avaient invité Steve Jobs et Bill Gates a parlé ensemble pour cette conférence, et c'était une interview assez intéressante évidemment, puisqu'ils ne sont pas souvent présents ensemble sur la même plateforme. Mais ça, c'était donc il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'était seulement ces personnes-là individuelles. Est-ce que vous avez suivi la conférence, vous trois? Il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont intéressé?
Mais j'ai juste suivi celle de Steve Jobs et Ballmer, mais pas celle de Zuckerberg.
D'accord. Bah, Yann, vas-y, qu'est-ce que tu as retenu de ces conférences, de ces interviews?
Il me semble que Jeff était déjà bien parti pour entamer ce sujet, donc je vais laisser commencer.
Non, j'allais dire que, les deux, trois interventions qui m'avaient marqué, et je ne suis pas allé à 10 cette année parce qu'il faut travailler un peu de temps en temps. Donc, c'était la première session avec Jobs, où il a parlé de son succès, il a parlé de la philosophie Apple, il a parlé de Flash, il a parlé de tout ça. Bon, ça, c'était assez sympa. En plus, Walt Mossberg et puis Kara Swisher sont quand même des très, 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 très bons, très bons intervenants. Et on a vu dans la session avec Zuckerberg qu'il a passé quand même un mauvais quart d'heure, puisque bon, c'est quand même des journalistes très réputés qui connaissent bien leur sujet. Et donc, l'intervention de Zuckerberg a été notée comme étant une des plus mauvaises prestations qu'il ait données.
Mais ça c'est vraiment le problème de Zuckerberg, qui a un très mauvais... il a une très mauvaise présence. Enfin, il est terrible. Moi, je comprends même pas pourquoi les gens de Facebook le laissent parler. Il était suant. Donc, Zuckerberg, comme on le disait, c'est le président de Facebook. Et il est évidemment sur le grill en ce moment pour tous ces problèmes de vie privée dont on vous a largement parlé dans l'émission. Et il était suant, hésitant, balbutiant. Enfin, il était terrible dans cette interview.
Il était terrible, mais pourtant, je l'ai vu maintes et maintes fois, et je l'ai rarement vu aussi mauvais que ça, quoi. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est parce que il était terrorisé à l'idée de monter sur scène avec Kara et Walt.
Mais il est très jeune, en plus, hein. Il faut rappeler qu'il a 26 ans,
il a 26 ans, et il a beaucoup de responsabilités, ça arrive à tout le monde, hein. Faut d'avoir un mauvais jour, donc, je veux pas lui jeter
la pierre.
C'est quoi l'expression? Je vais lui jeter la pierre, merci. C'est vrai. Je pense que c'était assez étonnant en fait comme situation. J'ai bien aimé Steve Case aussi, qui était l'ancien patron d'AOL, qui est revenu un petit peu sur le passé en disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que le mariage AOL Time Warner a capoté et quelle était l'idée derrière ça. Je sais pas si tu as vu ça, Patrick, mais il y a un moment où il explique qu'une des idées qu'il avait soumises à son board, c'était de racheter Apple au moment où AOL était largement plus gros et de mettre Steve Jobs à la tête de AOL Time Warner. Le monde serait différent aujourd'hui
si ça
avait eu lieu. Et Steve Case, c'est un mec que j'aime beaucoup, c'est un mec qui est très simple, même si c'est un mec qui a quand même eu une belle histoire, un beau track record. C'est un mec qui est très simple. On est en fait co-investisseur dans Sismic, et c'est un mec que j'ai la chance de rencontrer quelques fois, et vraiment très bien. Mais c'est une de ces conférences où c'est intéressant, mais ça me paraît pas être un must. Si tu veux, j'avais passé la semaine dernière à TechCrunch Disrupt à New York, et ça m'a semblé beaucoup plus intéressant et beaucoup plus proche en fait de mes propres centres d'intérêt.
Moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, TechCrunch Disrupt, c'est quelque chose de très orienté start-up et innovation. Là, c'est plus une conférence où les gens reviennent sur une analyse du marché qui est un petit peu plus philosophique, contemplative presque, on dirait. D'ailleurs, c'est ce dont parlait Steve Jobs, était assez intéressant. Il parlait de l'évolution du marché du PC et de l'informatique grand public. Et il dit en gros l'analyse qu'ont une partie des gens, c'est que l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui risque d'être considéré comme quelque chose d'un petit peu lourd d'ici quelques années, et d'autres types de machines risquent de voir le jour qui sont beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup moins capables peut-être, mais plus faciles à utiliser. Et l'iPad est lui ce qu'il imagine qui ira dans cette direction. Il y avait Steve Ballmer et Ray Ozzie de chez Microsoft qui ont parlé aussi de beaucoup de choses en disant que il y avait effectivement cette, enfin, ils considèrent eux l'iPad comme un PC finalement, et ils font une différence entre ceux qui, les machines qui peuvent rentrer dans la poche et les machines qui ne peuvent pas rentrer dans la poche, et c'est là que vient la différence. Et excusez-moi, je lis dans la chatroom des gens qui se battent pour savoir quand sort l'upgrade de l'OS 4 pour les iPhones existants. C'est le 21 juin. Et l'iPhone 4, lui, sera disponible le 24 juin. Donc voilà, ça c'est une question à laquelle on n'avait pas répondu, ce que les gens se posaient peut-être. Oui, et donc les gens de chez Microsoft disaient il y a les machines qui rentrent dans la poche, donc les téléphones, et les machines qui ne rentrent pas dans la poche. Et pour eux, tout ce qui ne rentre pas dans la poche, c'est un petit peu la même chose. Moi, je pense qu'ils ne répondaient pas très clairement à toutes ces questions parce que ils sont en train de préparer une expérience unifiée pour ce type de machine eux aussi, et ils pouvaient pas dévoiler leur plan immédiatement.
Bah, tu as l'intervention de Microsoft a dit, où il disait je n'aime pas l'iPad parce que il y a pas de stylet. Il y a pas de stylet. Et franchement, pour avoir eu une tablette PC IBM avec un stylet, c'est inutilisable. Donc, je pense que l'approche sur laquelle ils sont partis, il semblerait, soit encore la mauvaise. En tout cas pour moi.
Disons que si la tablette est prévue pour ça à la base et bien conçue, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas utilisable.
Ouais, on verra. Okay. Mais le gros problème que je vois de toute façon, c'est que l'approche de Microsoft, c'est toujours de dire je pars de l'OS de mon PC et j'essaie de virer des bouts de code de manière à faire tenir dans une tablette, et ça a toujours été la mauvaise approche. La bonne approche, c'est ce que Apple a fait, pardon, en prenant un OS d'un téléphone, en rajoutant les différentes fonctionnalités qui sont nécessaires sur une tablette. Donc tu montes, tu fais une upgrade, tu fais pas une downgrade.
Moi je pense que Microsoft prépare justement ce type d'approche et qu'ils vont essayer d'avoir une interface semblable à celle de leur système pour téléphone, donc Windows Phone 7, et qu'ils vont l'adapter aux tablettes et qu'ils vont intégrer dès le départ cette fonction de stylet. Je pense qu'ils ont compris et qu'ils sont plutôt en train de préparer des choses comme ça. Mais...
Parce que dire que c'est la bonne approche, celle qu'a pris Apple, je dirais plutôt que c'est une bonne approche, mais c'est pas parce que voilà, celle-là fonctionne qu'il n'y en a pas d'autres. Et il y a un truc qui est passé assez inaperçu par rapport à cette D8, cette conférence D8. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Windows Embedded 7. Qui est l'OS qu'a lancé Microsoft, qu'ils l'ont annoncé au Computex, je crois. Et quand on a interrogé Steve Ballmer au D8 en lui demandant, alors qu'est-ce que vous pensez de l'approche de Google par rapport à Android et leur système d'exploitation qui est dans le cloud, etc.
Tu parles de Chrome OS.
De Chrome OS, voilà, exactement. Mm-hmm. Il a répondu comme quoi finalement il sait pas trop en fait dans quelle direction ils partent, qu'ils ne sont pas consistent, qui ne sont pas
cohérents,
voilà, dans leur approche. Ils ont plusieurs, merci beaucoup, mais ils ont plusieurs approches pour aborder la problématique des applications, pour rendre des applications disponibles pour les utilisateurs. Et parallèlement à ça, on voit que Microsoft sort Windows Embedded 7. Et finalement, j'ai l'impression
qu'on peut expliquer ce qu'est Windows Embedded 7. Yann, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Windows Embedded 7 pour ceux qui savent?
Oui. Effectivement. Donc c'est pour ça que je disais qu'on y voit un petit peu plus clair, parce que Windows Embedded 7, c'est le système d'exploitation que Microsoft vient de sortir pour des tablettes PC, pour des trucs qui sont pas vraiment des ordinateurs portables, qui sont finalement de la taille d'un iPad, parce qu'apparemment ils se sont rendus compte que Windows 7 c'est trop lourd et que ça consomme trop pour un périphérique comme un iPad ou une tablette, et que Windows Phone 7 c'est pas adapté puisque c'est trop limité. Donc en fait ils ont sorti ce système un peu hybride entre les deux qui s'appelle Windows Embedded 7, et le dénominateur commun qu'on retrouve entre Windows 7, entre Windows Phone 7 et Windows Embedded 7, c'est toujours Silverlight qui est le point commun. Et on a vraiment l'impression que Microsoft ne regarde pas finalement les utilisateurs, mais plutôt les développeurs. Ils essaient de séduire vraiment les développeurs, puisque ce qu'ils essaient de vous faire comprendre, c'est que vous, en tant que société, en tant que Sismic ou n'importe quel autre développeur, si vous développez vos trucs avec Silverlight, qui est notre technologie, vous allez pouvoir attaquer des gens, enfin, vendre votre application sur Windows Phone 7, sur Windows Embedded 7, sur Windows 7, sur tout un tas de périphériques, alors que si vous le faites, si vous décidez de développer sur Android, ben vous allez devoir vous battre avec plusieurs langages de programmation différents. Et donc, en fait, on a vraiment l'impression que Microsoft laisse de côté un petit peu les utilisateurs qui n'écoutent pas vraiment. Ils essayent toujours de séduire les développeurs. Et je sais pas si c'est la bonne approche. Je sais pas comment Loïc, lui, ils ont pris l'approche de Microsoft avec Silverlight comme étant le nouveau rouleau compresseur pour...
Écoute, ce que nous disaient Cédric et Loïc là, il y a deux semaines, c'est que justement, Microsoft était en train de préparer des choses très intéressantes pour la fin de l'année et qu'ils allaient avoir une unité d'interface et une unité d'expérience utilisateur qui était vraiment étudiée, et c'était pour ces raisons qu'ils avaient mis de côté les expériences utilisateurs différentes du type du courrier qui nous avait tellement enthousiasmé.
Ah, ok. Bon, on verra bien.
Donc
ce que
on verra ce que ça donne.
Ouais.
Effectivement. Une chose, moi, que j'avais trouvé intéressante, qui était une remarque de Ray Ozzie, donc, qui est l'un des pontes de Microsoft, il disait que l'iPhone OS et Android, c'était le passé, et que Chrome OS, donc un système entièrement dédié au cloud et à Internet et aux applications sur Internet, c'était l'avenir. C'est une manière de dire les choses assez intéressante, parce que ça veut dire qu'a priori, lui au moins, croit véritablement au fait que d'ici un an, deux ans, cinq ans, dix ans, on ne sait pas, mais les applications vont vivre sur le cloud, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident à entendre de la part de Microsoft, parce que le cœur du business de Microsoft, c'est les applications lourdes qu'on installe sur sa machine. Donc peut-être qu'il y a là une petite transition dans la philosophie qui fait que Microsoft est en train de préparer l'avenir et est en train de se dédier peut-être un petit peu plus sérieusement à ce type de projet.
C'est sûrement la raison pour laquelle ils ont lancé Silverlight, qui est cette sorte de plateforme hybride entre le cloud et le desktop, qui sont en train d'amorcer cette transition. Donc ça commence à prendre forme en fin de compte, leur vision, et donc je suis impatient de voir ce que ça va donner quoi par rapport aux approches d'Apple et Google.
Eh bien justement, on parle de Google et de Microsoft. Il y a eu une sorte de petit coup dur au niveau pub pour Windows et pour Microsoft en général, puisque Google a annoncé il y a quelques jours vouloir se débarrasser de leur machine sous Windows autant que possible. C'est-à-dire qu'au sein de la société Google, ils vont privilégier les ordinateurs Apple ou les ordinateurs sous Linux et essayer d'éviter les ordinateurs sous Windows pour des questions de sécurité. Alors, deux choses. On se doute bien qu'ils vont toujours développer des applications sous Windows, et pour tester leurs applications et leur site, ils sont évidemment obligés d'avoir des machines sous Windows. Mais surtout, on se souvient aussi que les attaques, les cyberattaques dont avait été victime Google il y a quelques mois, notamment de la Chine, les avaient beaucoup affectés. Et il est possible que ça soit une réponse à ce problème, puisque on le sait, que ce soit pour des questions de sécurité ou des simples questions de quantité de cibles potentielles, puisque Windows est présent partout, les pirates et les virus s'attaquent plus facilement à des ordinateurs Windows. Donc le fait de passer sur une autre plateforme peut éviter ce genre de déboire. Mais ce qui est certain, c'est que Microsoft n'était pas très content, parce que quand une société comme Google dit pour des problèmes de sécurité, on va passer à autre chose que Windows, ça fait un peu mal.
Ouais. C'est un coup de, quand tu regardes le total cost of ownership donc le TCO des boîtes Windows, c'est monstrueux quoi. Quand tu vois toutes ces attaques sans arrêt, etc., c'est incroyable.
Ouais, pourquoi c'est quelque chose que vous prenez en compte dans vos calculs savants financiers et économiques?
Non, parce que les entreprises dans lesquelles on investit vont être toutes petites, donc c'est quelque chose qui va être facile à gérer. Mais quand tu regardes en fait la problématique de parc de machines que des boîtes comme Google, qui ont 20 000, 30 000 employés, etc., je ne sais même pas combien ils en sont maintenant, vont avoir à gérer, c'est énorme. Et donc, effectivement, à un moment ou à un autre...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tu dois prendre une décision. La décision qu'ils ont prise, c'est de dire Linux oui, macOS oui, Windows non. Ouais. Parce que ça coûte trop cher, quoi. Et quand tu vois en plus qu'une grosse partie,
c'est surtout ça, ouais.
Quand tu vois qu'une grosse partie du phishing et des virus, etc., maintenant s'attaquent à Twitter, à Facebook, là, depuis 2 jours, c'est j'ai reçu sans invitation d'Angelina Jolie, et si tu cliques dessus, tu te retrouves avec du malware sur ta machine.
Oui, faites attention, c'est... d'ailleurs, il y a des emails de phishing, j'en ai reçu 2-3, qui sont envoyés par une adresse à facebookmail.com qui vous dit. Votre compte a été suspendu, cliquez ici pour le réactiver et faites très attention à l'endroit dont a été envoyé ce mail. Vous rendrez compte que c'est facebookmail.com qui n'est évidemment pas facebook.com et ces gens-là essayent de vous avoir en faisant des emails qui semblent légitimes alors qu'ils ne le sont bien évidemment pas.
Et c'est pareil, t'as du Twitter. Donc aujourd'hui, quand on voit le coût de protéger en fait un parc de machines Windows, c'est beaucoup trop cher. Et c'est pour ça que tu vas voir le développement. Enfin, tu vois aujourd'hui, bon, Apple est devenue la boîte de technologie la plus qui vaut la plus cher sur le marché coté. Pourquoi ? Bah parce qu'aujourd'hui, leurs produits ont véritablement une importance réelle, que ce soit dans le monde des consommateurs ou dans le monde de l'entreprise. Et moi, j'ai plein de copains qui ont dit allez, on a abdiqué, on achète, ouais. On achète des Macs partout, et puis voilà quoi.
Ouais, d'accord. Mais ça, c'est un problème qui va se répéter si le Mac devient omniprésent. Si ça devient une cible intéressante, moi je ne doute pas qu'il y aura aussi des virus qui le viseront. Aujourd'hui, la part de marché est trop faible pour que les pirates et la mafia passent du temps sur des virus pour Mac, mais ça pourrait changer si tout le monde s'y met.
C'est possible.
Pardon, Yann, tu avais peut-être ton mot à dire là-dessus, grand fan de Microsoft devant l'éternel.
non, pas parce que vraiment, enfin, je vois juste que Microsoft est en train de passer un sale quart d'heure ces derniers mois et qu'on s'acharne sur eux, donc ils doivent bien être dans les cordes et ce genre de publicité, ils en avaient vraiment pas besoin. Donc moi, j'aime bien avoir au moins 3 concurrents bien en forme, mais ça m'embête un petit peu quoi de les voir dans les cordes comme ça. Je préfère avoir un Microsoft en pleine forme, un Google en pleine forme et un Apple en pleine forme, comme ça ça bénéficie aux utilisateurs. Là, comme ça, l'utilisateur il sait pas trop, bon alors ça veut dire quoi, Windows c'est pas stable, faut que je passe à quelque chose d'autre, enfin voilà. Ouais. Quoi, ça
moi je pense que le Microsoft va nous revenir assez vite à la fin de l'année. Et ça va. Excusez-moi, on a eu un petit problème avec la chatroom que je règle en même temps. donc je disais, Microsoft va nous revenir en pleine forme vers la fin de l'année. Et là j'ai l'écho parce que j'ai réactivé le truc. Donc Microsoft va nous revenir en pleine forme à la fin de l'année et tout va très bien se passer pour Steve Ballmer, Ray Ozzie et tous leurs amis, et Microsoft redeviendra un acteur essentiel du monde de l'informatique et tout ira bien. En attendant, Yahoo a fait une annonce assez intéressante, non pas pour Yahoo, mais pour Facebook. Alors, il y a quelque temps, au tout début du rendez-vous tech, on parlait de Twitter à toutes les sauces. On s'est mis à parler d'Apple à toutes les sauces, de Google, il y avait Buzz, Wave et tout ça, on en parlait à toutes les sauces. Maintenant, c'est Facebook. Ça fait un mois ou deux, c'est Facebook chaque minute. Et ben là, ça ne manque pas. Yahoo a fait une annonce à propos de son service de profil qui s'appelle Yahoo Profiles, qui a été renommé Yahoo Pulse, qui a une intégration très profonde avec Facebook. Et encore une fois, on se rend compte que Facebook est absolument incontournable. Ils sont partout. Et moi, je réitère ma prédiction que Facebook est devenu une force monumentale du web, et ils sont en train de continuer dans cette direction, surtout depuis qu'ils ont, il y a quelques jours, présenté leur nouvel écran de sélection des options de vie privée, qui est un petit peu plus efficace et qui règle un peu le problème dont ils étaient victimes depuis quelques semaines. Facebook est absolument partout, et moi je vois mal aujourd'hui comment il pourrait être effacé par quelqu'un d'autre. Et Yahoo, qui, même si on s'en moque un petit peu, nous, entre technophiles, on se dit, oui, bon, Yahoo, c'était sympa il y a 5 ans, mais aujourd'hui, c'est Google qui est important. Yahoo reste une énorme force dans le monde du net, et il y a énormément d'utilisateurs sur Yahoo. Le fait qu'ils intègrent complètement Facebook à leur nouveau service de profil est un atout pour Facebook monumental.
Non. Ouais, je dirais, je suis d'accord avec toi sur l'analyse concernant Facebook, c'est-à-dire que c'est devenu c'est le Yahoo des années 2010 et plus, donc ce sera très rapidement la boîte internet la plus valable, la plus importante de cette décennie. Je pense que c'est aussi que Yahoo a complètement sur Yahoo Profiles, ça aurait dû être le point de convergence de tous les services Yahoo, et là où ils auraient pu effectivement créer une vraie valeur et créer un vrai réseau social. Et le fait que, plutôt que de créer leur propre innovation et leur propre infrastructure, ils mettent du Facebook, ça veut dire qu'ils ont complètement, ils ont perdu leur âme, ils ont perdu la bataille. Et quand tu vois en fait Carol Bartz sur scène,
donc présidente de Yahoo, présidente
CEO de Yahoo, sur scène à TechCrunch Disrupt, où tu lui demandes d'exprimer ce que c'est que Yahoo, il est incapable de le dire de façon claire et précise. Tu te dis que bah voilà quoi, c'est dommage quoi, c'était sympa, et puis Yahoo va disparaître un moment ou un autre.
C'est sûr que Yahoo, qui a commencé son business avec l'indexation du net, qui vend la pub à Bing, puisque c'est Bing qui va faire la pub de Yahoo très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, et qui vend cette sorte de moteur de réseau social, pas qui vend, mais enfin qui utilise Facebook pour faire ses interactions sociales, on a l'impression que ça devient pas une coquille vide, mais enfin, on se demande ce qui reste de Yahoo, effectivement, c'est assez... C'est très bien pour Facebook, pour Yahoo. Moi, ça m'affecte pas parce que j'ai plus aucune affection pour Yahoo. C'était une société sympa au début des années 2000. Ils sont tellement perdus et ils ont tellement fait peu d'innovation. Ils ont perdu leur avance pendant ces 10 dernières années que bon, Yahoo ne m'intéresse finalement plus tellement. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'ils perdent quelque chose, quoi. Une fois de plus, c'est un morceau de plus qu'ils abandonnent à quelqu'un d'autre. Yann, tu as un
c'est
commentaire
triste.
Là-dessus.
Moi, je dis c'est triste.
Non, enfin, on a vraiment l'impression que c'est devenu un agrégateur de services. Ouais. Et ça peut être très bien. Enfin, il y a, quand tu vois Google News, bon, c'est un agrégateur de news. Donc, tu peux aller sur Yahoo et tu retrouves différents services sur une seule page. Ça peut marcher. Et puis après, ça peut renflouer les caisses et leur permettre de travailler sur des nouveaux produits dans quelques années. Donc, bon,
c'est sûr, c'est pas la période de leur vie la plus sexy. Mais voilà. Ça peut être une stratégie
c'est
business.
Non, mais c'est pas un problème de caisse. Ils ont plein de cash encore. Ils ont encore plein d'utilisateurs. Simplement que tous les VC ont fait un raid organisé, enfin plus ou moins organisé sur les ressources
de Yahoo. Les
venture
capitalistes,
donc les investisseurs, les capitaux risqueurs comme on dit en France, ont fait un raid plus ou moins organisé sur toutes les ressources Yahoo qui étaient dignes de ce nom. Donc ça veut dire que tous les gens qui étaient vraiment valables, et Dieu seul sait s'ils avaient vraiment une hiérarchie de mecs qui étaient vraiment super bons, je veux dire, on les a vidés de cette substance. Et donc aujourd'hui, Yahoo c'est géré par des mecs qui sont vachement bons en termes de compta, en termes de finance, qui vont optimiser les coûts, qui vont produire des bons résultats, etc. Mais ils ont perdu leur âme, ils sont plus foutus d'innover. Et je suis désolé, mais c'est dommage parce que Yahoo, c'est une véritable force d'innovation et de création sur Internet. Et c'est fini. C'est fini. Oui. C'est dommage.
Tristoun, ouais. Yann, c'est toi qui nous a donné le sujet suivant, donc je vais te passer la parole en espérant que ta communication ne se coupe pas en plein milieu. Tu voulais nous parler de Foxconn, peut-être que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit.
Oui, alors Foxconn, c'est... Je maîtrise pas totalement le sujet, donc
pardonnez-moi. Écoute, c'est toi qui l'as mis dans le, c'est toi qui l'as mis dans le line-up. Hein.
Oui, effectivement. Alors, pardonnez-moi quand même s'il y a quelques erreurs qui se glissent dans le sommaire, mais Foxconn, c'est une société donc basée en Chine qui a des contrats avec plusieurs constructeurs de produits high-tech, donc avec Dell, je crois, HP, Apple. Donc c'est eux finalement qui vont construire l'iPhone, qui vont construire l'iPad et tous les produits high-tech. Et donc il y a un scandale qui a éclaté il y a quelques semaines, puisqu'il y a des journalistes chinois qui se sont faufilés qui ont intégré finalement Foxconn pour faire un petit reportage caméra cachée, et se sont rendu compte des qualités les qualités exécrables dans lesquelles les employés de cette société travaillaient. À titre d'exemple, par exemple, les gens qui sont sur la chaîne d'assemblage, ils n'ont pas le droit de s'appuyer, de se reposer légèrement. Il faut qu'ils restent vraiment droits. Et si jamais vous vous appuyez ou vous vous allongez un moment, vous êtes immédiatement repris à l'ordre et on vous demande de vous remettre droit et de continuer à travailler un peu comme une machine. Donc, c'est vraiment des qualités de travail qui sont exécrables et sont payées vraiment très, très mal. Je crois
Agarwaen dit dans la chatroom, pose la question la plus intéressante. Il dit, mais il y a des journalistes en Chine. Et je voulais le relever.
Ben, je sais pas, peut-être que maintenant ils sont retenus en prison, je sais pas, mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez surprenant, c'est que qu'on a réussi à voir ce reportage, donc ça a peut-être été publié en dehors de la Chine.
Possible, oui.
Je sais pas. Et en fait, ces employés sont payés vraiment au pied au cul, quoi, parce qu'ils sont payés à $132 par mois. Ce qui, enfin, il divise ton salaire et regarde combien de ses employés tu représentes, quoi. C'est hallucinant. Et donc, il y a eu une vague de suicides qui a commencé. Plusieurs employés qui n'en pouvaient plus se sont suicidés. Ça rappelle ce qui s'est passé chez Orange. Et donc, ça a forcément attiré l'attention des médias. Et donc, la première chose, c'est que on se demande, enfin, la première chose que je me suis demandé, c'est que, est-ce que quelque part nous, en tant que consommateurs high-tech, on n'est pas responsable, parce qu'on est les premiers à faire plusieurs boutiques pour avoir l'iPad le moins cher, pour acheter son lecteur MP3 le moins cher, comparer les prix. Donc quelque part, on participe à cette politique de voilà, on veut avoir l'appareil le moins cher. Donc quelque part,
je vais juste oui. Yann, avant de parler de cette question, je vais juste faire deux petites précisions sur ce scandale Foxconn. L'usine, entre guillemets, Foxconn est en fait une véritable ville avec 300 à 400 000 ouvriers qui y travaillent, avec évidemment des immeubles, des restaurants, de tout. C'est une ville, c'est incroyable la taille de la chose. Et sur ces 300 à 400 000 ouvriers, il y a eu une dizaine de suicides, ce qui est un taux de suicide inférieur à celui qu'il y a par exemple en Californie. Donc ça a mis un coup de projecteur sur la situation de travail, qui est évidemment en Chine. Vous doutez bien que vos baskets qui sont faites en Chine, elles sont pas faites par des gens qui sont payés 1 500 €. Donc Antonin Arto nous crie dans la chatroom, mais ne nous parle pas de taux quand c'est des suicides. Camarade, je suis désolé, mais les gens se suicident dans toutes les sociétés du monde, et la seule façon de voir s'il y a effectivement une signification importante dans les conditions de travail, c'est de voir si les gens se suicident plus quelque part que ailleurs. Je veux dire, si tu as par exemple un taux de suicide moins grand dans cette usine de Foxconn que dans un pays comme le nôtre, comme la France, ça a une signification. Je veux dire, quand on dit 10 suicides dans l'année, ça peut sembler, oh mon Dieu, c'est énorme, c'est scandaleux. Si on se rend compte qu'il y en a plus dans des conditions normales, en quelque sorte, de vie dans un pays comme la France, ça veut dire quelque chose. Donc, excuse-moi de t'offenser, camarade, mais le monde tourne comme ça et les statistiques veulent dire quelque chose. Donc, pardon, je me suis un petit peu égaré, mais tout ça pour dire que les conditions sont évidemment pas idéales. Ce sont des usines qui sont où les gens travaillent 12 heures par jour dans des conditions extrêmement difficiles. Et je voulais juste faire ces deux petites précisions avant d'en revenir à la question tout à fait pertinente de Yann. Est-ce que nous sommes responsables, à notre petit niveau et à notre manière, de ces conditions-là, de ces conditions de travail et ce type de politique industrielle en cherchant à acheter le moins cher possible pour tous nos gadgets et d'autres choses aussi, hein, on parle de gadgets, mais comme on disait, les baskets, les vêtements, c'est pareil.
Tout à fait.
Yann, te sens-tu responsable, toi ?
Oui, tout à fait. Effectivement, je suis le premier à aller sur un site de comparatif de prix. Je suis le premier à aller regarder mes prix à Surcouf et ensuite descendre à rue Montgallet pour acheter les périphériques. Donc oui, effectivement, quelque part à mon échelle, je participe à ça et donc ça fait réfléchir. Et donc du coup, quand j'achète un article aujourd'hui, je réfléchis un petit peu plus à ça. Mais effectivement, ça porte à réflexion. Toi, non, peut-être pas.
Moi, j'ai une approche peut-être un petit peu différente. D'abord, je dirais que, mine de rien, notre indignation à tous, parce que je parle de statistiques, mais c'est sûr que ça fait jamais plaisir de voir ce genre de choses. On se sent un petit peu couillon quand on a notre bel iPad en se disant que le type qui a travaillé dessus, bah, il s'est peut-être suicidé la semaine dernière, tu vois. Mais en même temps, notre indignation a poussé tous les constructeurs, et d'ailleurs notre indignation, ne soyons pas cyniques, peut-être même leur responsabilité, a poussé les constructeurs à aller investiguer la chose. Et Apple, notamment, qui fait d'énormes marges, donc ils peuvent se le permettre, a décidé de verser une partie des bénéfices. Qui sont faits sur les machines construites sur ces lignes de construction, sur ces lignes dans ces usines-là, de reverser une partie des bénéfices aux travailleurs directement, sans même passer par Foxconn. Et d'une certaine manière, c'est notre manière à nous, en tant que société occidentale, de contribuer au développement de ces sociétés, de ces pays émergents. Et j'irais même plus loin. Je dirais que c'est bien beau de se dire oui, mais non, c'est horrible. Il faudrait qu'on arrête d'acheter les produits fabriqués en Chine dans ces usines. Mais imaginez-vous si le monde entier demain réagit comme ça et que on va dire à ces ouvriers ah bah désolé mon bon garçon, aujourd'hui on ne vous achète plus rien parce qu'on a décidé que vos conditions de vie n'étaient pas satisfaisantes. Donc on ne va plus rien vous acheter et l'usine Foxconn ferme dans 2 mois. Je peux vous assurer qu'ils seront pas contents non plus. Donc, effectivement, c'est situation.
Mais t'as le commerce équitable aussi. Enfin, c'est le même problème avec.
Ouais, enfin, puis il faut pas oublier une chose, c'est que la Chine est aujourd'hui le plus grand bailleur de fonds en termes de crédit pour les pays qui sont lourdement endettés, tels que la France, l'Europe et les États-Unis. Et donc, le jour où on commence à avoir une politique comme ça, ça veut dire qu'ils arrêtent d'acheter nos bonds et que donc nos économies plongent également. Donc, je pense que c'est un vrai problème. Et clairement, c'est triste de voir que des gens sont poussés au suicide. Je veux dire, juste une comparaison. Juste derrière chez nous, il y a une école où il y a 2000 gamins. Il y en a 4 qui sont jetés sous un train l'année dernière. Parce que c'est un peu près citron et donc que les gamins ont décidé de se suicider. Bon, bah, c'est malheureux aussi. Il y a des suicides partout. Je pense que le fait que Apple ait décidé de réagir, c'est positif.
Apple et les autres, hein, on a parlé que d'Apple.
Apple et les autres, c'est positif parce que bon, c'est dès qu'on peut améliorer en fait les conditions de travail des gens, c'est la société au sens large qui progresse. Cela dit, c'est pas parce que tu vas arrêter de faire du comparison shopping que les choses comme ça vont évoluer au niveau sociétaire ou sociétal dans ces pays-là. Je pense que chacune
peut-être. Yann évoquait le commerce équitable. Peut-être qu'on pourrait imaginer une sorte de label tech qui assurerait des conditions de travail décentes aux gens qui travaillent sur les produits. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et à vrai dire, c'est là la beauté du capitalisme. Je sais qu'on n'aime pas tellement le capitalisme en France, dans notre pays, mais imaginons qu'il y ait une véritable demande et que chacun de vous, je parle à vous qui nous écoutez, se dise si jamais on a un label d'industrie équitable pour les objets tech et que vous étiez prêt à les acheter, eh bien ça deviendrait un argument de vente pour les constructeurs qui développeraient ce type de pratique.
Parce que ça marcherait bien pour le café, hein. Donc il y a pas de raison. Ouais. Parce que là, je sais plus quoi faire parce que je me dis bon ben finalement je fais quoi pour mon prochain lecteur MP3, j'achète un modèle plus cher, mais ça me dit pas forcément que les gens qui ont travaillé dessus ont été mieux traités que l'autre. Enfin,
chez Sarko, ils sont fabriqués en France. Non, voilà. Mais c'est vrai.
Non, mais en plus, c'est vrai, j'en cherchais un l'autre fois, mais c'est difficile de trouver ici. Mais c'est vrai, je me pose la question. Et un petit label, comme tu le décrivais, ça pourrait effectivement peut-être arranger les conditions de travail des gens, quoi. Donc, à méditer.
Dernière petite note, il faut pas oublier non plus que ce sont des pays qui ont une évolution. Je parle des pays émergents et notamment de la Chine, des pays qui ont une évolution sociétale extrêmement rapide. Ils sortent d'une société presque médiévale il y a quelques dizaines d'années et ils évoluent à une vitesse bien plus grande que l'évolution que nous avons connue avec l'arrivée de l'avènement de l'ère industrielle. Donc ces choses vont très très vite et il ne faut pas se leurrer, les pays asiatiques sont en train de nous rattraper, même si la transition est très difficile et parfois douloureuse pour eux, et bon, pour nous pas vraiment, mais enfin de constater ce genre de choses, cette évolution est peut-être nécessaire et en tout cas ça change très vite et je pense que d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, ces pays auront été amenés au niveau d'industrialisation que nous connaissons aujourd'hui et ces problèmes se poseront, je ne veux pas dire pas, mais moins.
Ou peut-être qu'ils iront sous-traiter ailleurs.
Mais très certainement, très certainement. Et il n'est pas, bon là on parle vraiment d'autre chose que de la question tech, mais il n'est pas du tout impossible qu'une fois que l'Asie sera arrivée à un niveau de vie équivalent à celui que nous connaissons aujourd'hui, il y ait une descente, une relocalisation de la main-d'œuvre bon marché, par exemple en Afrique.
Ou en France, comme le Thierry qui 49.
Bon, merde. Allez, on va parler d'autre chose. Effectivement, c'est pas forcément notre point le plus fort, la géopolitique. Donc, on va laisser ces choses-là à la discussion dans la chatroom. Ils ont l'air bien partis. Certains pensent que j'ai tort et je pense qu'ils ont raison. On va parler, pour terminer, de notre beau pays en parlant de notre camarade Jean-Louis Masson, dont vous avez peut-être vous-même entendu parler. C'est un sénateur qui est parti dans une sorte de croisade contre l'anonymat des blogueurs. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est un sénateur assez exécrable, qui a décidé que les blogueurs pouvant s'exprimer de manière anonyme sur Internet, ils avaient la possibilité de dire, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il s'inquiète de la multiplication des propos inexacts, mensongers, des diffamations qui sont de plus en plus souvent colportées, selon lui, sur Internet. Je suis en train de lire un article du Nouvel Obs sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Il a dit... je voudrais que sur Internet l'anonymat disparaisse. Comme ça, par magie, hop, je claque des doigts et je ne veux plus qu'il y ait d'anonymat. Et quand on lui a demandé, cher sénateur, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous savez ce qu'est l'iPad ? Est-ce que vous savez ce qu'est Twitter ? Et est-ce que vous savez, je ne sais plus, il y avait un autre terme, Deezer, voilà. Et il a répondu de la manière la plus lamentable et détestable qu'il soit, en disant mais moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit, je sais simplement qu'il y a des gens qui disent des choses sur Internet qui sont fausses et donc je ne veux pas que ça soit possible. Il fait évidemment la comparaison la plus inepte qui soit, en disant dans la presse, si quelqu'un dit quelque chose, on sait de qui il s'agit et donc il doit être responsable de ce qu'il dit. Alors pourquoi c'est la chose la plus exécrable qui soit ? C'est parce que il juge un médium et une technologie sans en comprendre le fonctionnement. Et c'est l'un des problèmes essentiels des gens qui légifèrent sur le net, c'est que ces gens-là ne comprennent pas le mode de fonctionnement des choses qu'ils doivent réguler. Donc, ça donne forcément des aberrations de ce type-là. Je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que l'anonymat est bon, nécessaire, possible, ou ce genre de choses. C'est même pas la question. Dernière chose, sur ce brave homme, nous nous sommes rendus compte, enfin les journalistes non anonymes se sont rendus compte que ce jeune sénateur avait lui-même fait usage de l'anonymat lors de différentes campagnes pour, par exemple, envoyer des tracts diffamatoires sur ses concurrents, faire des pratiques... Enfin, ouais. Il avait des pratiques totalement... Pardon, vas-y, tu connais peut-être l'histoire, Yann.
Non, du tout, mais j'allais dire que les tracts, il ne les a pas envoyés par Internet, donc du coup, il peut le faire.
Eh bien oui, voilà, exactement. Donc, enfin, une autre affaire, donc ça c'était en 83, les tracts diffamatoires. Il avait, en 1997, donc récidive, il a financé la campagne d'un candidat qui était présenté contre lui pour qu'un autre candidat qui était également contre lui se voit beaucoup moins facile à élire. Donc, enfin, c'est une attitude tellement lamentable et tellement honteuse que je voulais en parler ici simplement pour faire montre de ma déception et de mon indignation. Voilà, monsieur Masson, votre attitude est lamentable. Voilà.
Mais alors, je vais m'acheter un gilet pare-balles maintenant parce que, enfin, non, c'est juste histoire de me faire l'avocat du diable, même si je partage ton point de vue. Mais si jamais on voulait vraiment pinailler, je te dirais que voilà, t'es pas obligé de savoir ce que c'est qu'un MP5 pour dire qu'on doit pas vendre un flingue à un gosse, quoi. Donc, l'argument comme quoi il ne sait pas ce que c'est qu'Internet, il sait pas ce que c'est que Deezer, donc du coup, il peut pas légiférer dessus. C'est discutable, même si effectivement, voilà quoi, j'ai pas envie qu'un gars comme ça pose la moindre loi sur Internet, mais voilà quoi, dans l'absolu, t'es pas obligé de savoir ce que c'est que Deezer pour pouvoir dire, voilà quoi, il y a des pratiques qui ne devraient pas se faire sur Internet.
Je comprends, effectivement, il y a du vrai dans ce que tu dis, Yann, il y a du vrai, mais le problème est que à partir du moment où tu parles de questions technologiques, on sait bien. Nous tous ici, comme que nous sommes, que dans ce cas précis, l'anonymat est impossible à supprimer d'Internet. Donc, effectivement, dans l'absolu, oui, on n'est pas obligé de connaître les tenants et les aboutissants technologiques de quelque chose pour parler des principes d'utilisation, mais dans la pratique, il faut quand même se renseigner un minimum pour savoir si ce qu'on propose est même envisageable ou pas, plutôt que d'utiliser... Parce que ce monsieur est payé par nos impôts quand même. Donc, ouais. Tu vois, il est en train de dépenser notre argent pour remuer de l'air de cette manière. Enfin bref, bon, voilà.
Ouais. Non, puis il serait un peu temps que... Je pense que l'attitude dangereuse, c'est de dire « Je comprends pas, je m'en fous, mais je vais quand même légiférer, quoi. » Et c'est ça le problème.
Il serait
un peu le temps. Enfin, et on a le problème un petit peu partout. Avec, je vois aux États-Unis, il y a la nouvelle génération de politiciens, donc Obama et toute sa clique, qui comprennent vraiment très bien le social media, les outils, etc., et qui essaient d'en tirer le parti non seulement d'un point de vue communication, mais aussi pour essayer de faire avancer le chemin public. Hein, et on voit comment ils ont réussi à utiliser dans le cadre d'Haïti, dans le cadre de cette fuite de pétrole catastrophique que l'on a sur la côte est des États-Unis, et on voit en fait l'arrière-garde qui sait toujours pas utiliser un téléphone portable, quoi. Ça c'est un peu critique, quoi.
Bon, écoutez, on en a fini pour nos sujets principaux. On a tout de même une toute petite news, rumeur, machin. C'est une histoire d'IBM et de feu rouge et de... Alors, j'y comprends rien. Là aussi, c'est Yann qui nous a mis la news. De quoi il s'agit, là ?
Non, mais en fait, comme je sentais que ça allait être un rendez-vous tech très Apple, je me suis dit, tiens, on va glisser un autre constructeur pour histoire de diversifier. Et effectivement, IBM, ils sont en train de mettre en point un système. Essaie de faire passer ça où globalement quand vous allez vous approcher d'un feu rouge avec votre véhicule, le véhicule va communiquer avec le feu et comme le feu est sur le point de passer au rouge, le feu va ordonner à votre voiture de couper le moteur en fait. Donc ça permet d'économiser de l'énergie et donc c'est le feu qui va contrôler donc votre moteur et va déclencher, enfin mettre en route votre moteur quand ça passe au vert et couper le moteur quand ça passe au rouge pour vous éviter de dépenser, faire des économies, éviter de dépenser du kérosène. Donc forcément, ça déclenche énormément de réactions. On dit mais non, mais c'est n'importe quoi. Je veux pas laisser ma voiture
s'arrêter toute seule, oui.
Voilà, exactement. Alors que finalement, si tu regardes sur les 10 dernières années, ça commence, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens se disent tiens, un petit allumage de feu automatique, une boîte auto. Enfin, on a de plus en plus d'automatisme dans les véhicules. Et donc ça me faisait sourire en voyant ça, en voyant cette horde de gens qui jamais je laisserai un feu contrôler le démarrage d'une voiture. Et puis surtout à Paris étant réputé comme étant la ville où il s'écoule le moins de temps entre le moment où un feu passe au vert et le moment où t'as le premier coup de klaxon, tu sais. Donc c'est clair que ce système passerait jamais, quoi, au niveau des Parisiens. Mais voilà, quoi, c'était juste un petit clin d'œil vers le futur pour vous dire de quoi peut-être demain sera fait au niveau automobile.
Eh ben, on attend le futur avec impatience. Et vous savez ce qu'est le futur immédiat ? C'est bien sûr la statosphère de Guillaume.
Bonjour à tous. Événement notable dans le monde des intégrateurs et développeurs web, Internet Explorer 6 passe aux États-Unis et en Europe sous la barre des 5% de parts de marché. Lassé de devoir compter avec ce navigateur, véritable calvaire de standardisation HTML et CSS, plusieurs sites, notamment Google et en particulier YouTube, ont juste purement et simplement pris la décision de ne plus proposer de compatibilité avec IE6. Cependant, selon StatCounter GlobalStat, le navigateur est encore extrêmement présent puisqu'il est majoritaire en Afrique et en Asie, avec 21% d'utilisateurs. De son côté, Microsoft ne cache pas son envie de voir IE6 disparaître, mais la firme doit en assurer le support jusqu'en 2014 et se refuse obstinément à forcer les utilisateurs à mettre à jour leur navigateur. En France, trois navigateurs se partagent les deux tiers du marché. Firefox 3.6 et Internet Explorer 8 sont pratiquement à égalité avec 27%, suivi d'Internet Explorer 7 avec 16%. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Et c'est marrant quand même de se dire que nous, on ne parle que de Chrome, de Safari et de ce genre de choses. Il n'en a même pas parlé, Guillaume, dans Statosphere. C'est dire à quel point c'est véritablement insignifiant dans le monde réel, quoi.
Impressionnant.
Ouais, donc effectivement, IE6 qui ne finit pas de ne pas mourir, mais peut-être que la fin n'est pas si loin, sauf en Afrique, encore 21% IE6, vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, Statosphere sur Twitter, je ne savais même pas qu'il avait créé son lien jusqu'à ce que j'ai entendu l'émission aujourd'hui, le segment qu'il a envoyé aujourd'hui, donc je vais aller voir ce que ça donne sur Twitter. C'est donc twitter.com/statosphere. Vous savez qui d'autre est sur Twitter ? Hein ?
Ah, peut-être Jeff ?
C'est possiblement Jeff Clavier.
Je me demande bien qu'est-ce qu'il a trouvé comme pseudo. Je me demande même s'il est encore avec nous, en fait.
Ouais, c'est ça, il s'est endormi, en fait.
Non, je ne suis pas endormi, je lis les news de l'iPhone.
Ah, d'accord. Ah,
ouais. Oh, tu cherches un stylo
Apple, en fait.
Tu parles
d'un sénateur français, qu'est-ce que je mets à foutre?
Bon, Jeff, où peut-on te retrouver? Jeff, comment suivre ton actualité quotidienne sur le monde merveilleux de l'Internet?
C'est Jeff sur Twitter et sur plancast.com/Jeff également, là où je publie mes plans, comme aller chercher mon iPhone 4 le 24 juin.
Ah, ça y est, tu l'as déjà.
Je l'ai déjà mis et les gens commencent à me rejoindre et puis on verra si on va boire des bières ensemble une fois qu'on a eu nos petits devices.
Ah là 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 là.
Ensemble.
Yann, dis-moi où les gens puissent-ils te retrouver?
Ça n'a pas changé, c'est toujours YannAlet sur Twitter et YannAlet.com pour mon site web. Et toi donc, à chaque fois j'oublie de te poser la question, mais comment on peut s'en faire pour te suivre, Patrick?
Eh bien écoute, c'est très simple, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur Facebook, dans les deux cas c'est NotPatrick, donc twitter.com/NotPatrick ou facebook.com/NotPatrick. Ce que vous pouvez faire également, c'est aller sur le site de l'émission lrdv.fr pour retrouver tous les liens et discuter de l'actualité de l'épisode sur le blog. Vous pouvez également retrouver tout un tas d'émissions extrêmement extrêmement sympathique sur nowatch.fm. Comme vous le savez, nowatch.fm, c'est une réunion de podcasteurs indépendants qui vous offre des émissions variées, intéressantes, différentes et super cool, garanties par contrat. Si elles ne sont pas super cool, vous êtes remboursé. Ah.
Du téléchargement.
Du téléchargement, ouais, ouais, je sais pas dans quoi je pars. Mais par exemple, vous pourriez essayer l'émission Season 1 si vous aimez les séries télé. Et franchement, aujourd'hui, qui n'aime pas les séries télé? Season 1, c'est une émission animée par Sophie et Alex qui vous donne plein d'infos avec des astuces, des actus, des dossiers qui suivent l'actualité des séries télé. Et moi, je l'apprécie particulièrement. Une autre chose que vous pouvez faire encore, et j'en termine avec ça, c'est aller nous laisser un commentaire sur iTunes, parce que vous le savez, iTunes est un catalogue essentiel pour les podcasts, et il y a des gens qui se retrouvent sur iTunes et qui se disent « Mais quel podcast vais-je bien donc pouvoir écouter aujourd'hui ?» Et ben, si vous avez laissé des commentaires et mis des notes sur le Rendez-vous Tech, peut-être qu'ils pourront tomber sur le Rendez-vous Tech un petit peu au hasard.
Grâce à vous.
Et ce sera grâce à vous, rendez-vous compte. J'aurais bien lu un commentaire d'ailleurs, mais iTunes a l'air de ne pas très bien marcher. Donc peut-être qu'il refonctionnera au moment où vous écouterez cette émission. Et si c'est le cas, je vous remercie par avance de passer 2 minutes à laisser un commentaire sur iTunes. C'est extrêmement gentil de votre part. Et bah écoutez, dernière chose, je serai normalement demain à la Mowgli's Party. La soirée organisée par Cédric Poney sur Paris. Donc si vous voulez retrouver des gens du groupe No Watch et moi en particulier, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ça sera au bar Le O'Sullivan à Pigalle, attention. Et ça sera donc demain, nous enregistrons cette émission le 7 et ça sera le 8 à quelle heure ? Je ne sais plus, un moment dans la soirée en tout cas, on y sera. Et j'espère vous y voir nombreux. Bah écoutez, c'est tout. Ça va être terminé pour nous. Si vous voulez plus d'infos sur l'iPad et l'iPhone, bien sûr, on vous invite à nous retrouver dans l'émission Upload, qui est publiée tous les 15 jours également en alternance avec le Rendez-vous Tech que je fais avec Jérôme Kainborg. On a d'ailleurs fait une vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, c'est une vidéo où on explique l'iPad à ta mère.
Genre, oui, j'ai vu.
Qu'en as-tu pensé ? Sois impitoyable.
Non, mais c'est vrai que à plusieurs reprises, je me suis dit peut-être que je le prendrais finalement cet iPad. Et puis après, je me suis dit non, ma femme va me tuer en fait. Donc je me demande en fait si finalement tout ça c'est pas juste à cause de ma femme qui m'empêche de le prendre. Et en fait secrètement j'ai envie de l'avoir quoi. En tout cas, elle est très très efficace et elle explique bien ce qu'est l'iPad. Donc s'il y a encore des gens qui se posent la question, je vous la recommande effectivement.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est que si vos parents ou vos oncles, vos tantes ne savent pas exactement ce que c'est que cette bestiole, vous pouvez leur envoyer cette vidéo et on explique vraiment aux gens, aux néophytes, quoi, à tata Edna, à grand-papa, ce qu'est l'iPad pour les gens
Edna.
Laisse tomber. aux gens qui ne... Madame Michu, voilà, merci Viviane Roldo. à Madame Michu, vraiment, si ils ne savent pas ce qu'est cette machine, eh ben, vous pouvez leur envoyer cette vidéo, ça sera expliqué. C'est vraiment l'iPad pour les nuls, quoi. Donc voilà. Et puis, ça va être tout. On se retrouve donc dans 15 jours, le 21 juin, pour une autre émission du Rendez-vous Tech. Et d'ici là, on vous souhaite deux excellentes semaines pleines de soleil, de bonheur et de joie. Ciao à tous.
Ciao, ciao.
Salut.
Bah,
j'arrive pas
j'imagine.
À croire que t'es pas motivé par l'iPhone 4. C'est super compliqué.
Non mais écoute,
c'est quoi ces conneries là ?
Non mais sincèrement,
je vais l'acheter, mais bon, c'est pas génial. C'est...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.